Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Pascal Masirika.
Au sommaire de cette édition d'information, plus de 100 familles des trois quartiers sont sans abri en Mbujimayi. C'est le bilan d'une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville pendant la semaine. Le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental exhorte les sinistrés au calme. Suspension du trafic entre Bounia et Mongualou depuis la prise en otage et le meurtre de 17 passagers par des miliciens de la Codeco dans le territoire de Djougou. Les transporteurs réduits au chômage aujourd'hui demandent au gouvernement d'écarter les menaces des groupes armés. Notre invité, c'est le nouveau directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, Patrice Vahar, qui revient de Genève en Suisse, où il a participé à l'évaluation de la situation, affirme que ce domaine reste un vaste chantier en RDC qui nécessite l'implication de tous. Madame, messieurs, bonsoir. Une centaine de familles de trois quartiers sont sans abri en Mbujimayi après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville dimanche dernier. Ces familles avaient construit leur maison aux alentours de quartier Kalundu, Erveya, dans la commune de Bipemba, et au quartier Mansaka, dans la commune de Dioulou, non loin de l'aéroport. Le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental demande aux sinistrés de rester calmes. En Mbujimayi, la correspondance d'Esther.
C'est depuis dimanche soir que les femmes, les hommes et les enfants des quartiers Kalundu, Erveya et Masanka passent la nuit à la belle étoile après la pluie de près de 10 heures qui s'est abattue sur la ville. Les victimes de dégâts de pluie n'ont pas hésité d'hésiter l'entreprise qui exécute les travaux de modernisation de l'aéroport pour n'avoir pas bien canalisé les eaux des ruissellements. Les eaux provenaient de l'aéroport. Lorsqu'on a réhabilité la route, l'eau qui partait souvent dans l'autre sens a pris la direction de notre quartier. Les maisons, les toilettes se sont écroulées. Regardez comment nous vivons maintenant. Nous sommes dehors. Lundi dernier, le vice-gouverneur est allé se rendre compte des dégâts de cette pluie. Julie Kalinga était accompagnée des directeurs provinciaux de l'OVD ainsi que celui de la RVA. Romain Chinyama, commandant de la RVA, parle d'une catastrophe naturelle.
Nous sommes en train de travailler avec l'OVD. Il y a beaucoup de préalables. C'était un cas spécial. Même les avions repoussaient chemin.
Après avoir entendu les cris d'alarme des familles sinistrées, Julie Kalinga, vice-gouverneur, a publié un communiqué dont voici un extrait.
Au gouvernement central, nous sollicitons une assistance humanitaire en faveur de compatriotes sinistrés.
Signalons qu'une commission ad hoc a été instituée pour évaluer les dégâts. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Au Kwilu, c'est depuis plus de 2 mois maintenant que le trafic est coupé entre le territoire de Boulungu et celui d'Idiofa. À la base, le pont sous la rivière Luano est dans un état piteux et risque de s'écrouler. Le président de la société civile de la commune de Lukolela, dans la ville de Kikwit, affirme que cette coupure du trafic a asphyxié la zone. Alain Laoui plaide pour la réhabilitation de cet ouvrage. Pour en parler, retrouvons à Bandunduville Irène Boma.
J'étais depuis Ben Lirette sur la rivière Luano qui relie les territoires de Djofa et celui de Boulungu au Kwilu. Le pont 12 apôtres est sur le point de s'écrouler. Du coup, le trafic est déjà coupé sur cette route de desserte agricole qui est d'importance très capitale pour les échanges commerciaux entre ces entités. C'est Alain Laoui dans la ville de Kikwit qui a l'air.
Est à l'état de l'abrément total. Il reste moins, il va s'écrouler. Là où il y a les pieds, la rivière a débordé, il n'y a plus de circulation là-bas. Ça fait plus de 2-3 mois qu'il n'y a plus contact par véhicule entre Idiofa et Boulungu.
À l'heure actuelle, plusieurs produits agricoles pourrissent faute d'évacuation dans les centres de consommation, notamment à Kikwit, a indiqué Alain Laoui qui plaide pour la réhabilitation de ces ponts.
Nous lançons un SOS à toute personne de bonne volonté, aux autorités politico-administratives qu'elles volent au secours de cette population. Les produits sont en train d'être périmés là-bas. Il n'y a plus d'argent. La crise est entrée et qui quitte aussi a des conséquences de cette route-là. Au moment où nous parlons, le manioc devient rare.
Contacté à ce sujet, le ministre provincial des infrastructures du Kwilu entend prendre langue avec l'office des routes Kikwit pour des dispositions utiles. Irène Boma, Bandunduville, Radio Kapi.
On enchaîne avec l'Ituri où le trafic est suspendu sur le tronçon Bounia-Mongualou depuis la prise en otage et le meurtre de 17 passagers par des miliciens de la Codeco vers Bambou dans les territoires de Djougou. Conséquence, des dizaines de véhicules sont actuellement bloqués à Mongualou Centre et à Bounia. Les transporteurs qui sont réduits actuellement au chômage demandent au gouvernement d'écarter au plus vite les menaces des groupes armés qui circulent dans la contrée. À Bounia, le point de la situation avec vous.
Aucun véhicule ne fréquente les tronçons Nizi-Bambou-Kilo qui est contrôlé par le groupe armé Codeco malgré la présence de certains militaires des FARDC. Les passagers et les chauffeurs ont peur d'exposer leur vie pour ne pas subir le sort des 17 personnes innocentes qui ont été prises en otage à Bambou et tuées par Codeco. Contrés au chômage, ils demandent au gouvernement de garantir la sécurité sur cette route. Certains chauffeurs expriment leur ras-le-bol.
L'État n'assure plus notre sécurité. Nous demandons à l'autorité de nous faciliter l'ouverture de cette route.
Même des corps à Mongualou, des dizaines de camions qui avaient acheminé des marchandises avant ces drames sont bloqués et ne peuvent retourner à Bounia. Ce qui a comme conséquence, les prix de toutes les marchandises ont doublé dans plusieurs localités minières dans la zone. Les bourgmestres de la commune de Mongualou indiquent que la vie est devenue difficile pour de nombreux habitants. Jean-Pierre Bikilisende.
Mais depuis lors, il n'y a plus de trafic entre Bounia et Mongualou. Et tout le monde a peur. Ils se disent, mais aujourd'hui, on a massacré 17 personnes. Qu'est-ce qui peut se passer encore le lendemain? Et depuis 3 jours, la tension commence à monter. Il y a une flambée exponentielle des prix. La solution, il faut qu'on impose la paix.
Les porte-parole de l'armée en Ituri rassurent les usagers de cette route que des dispositions sont prises pour restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de l'Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre nouvelle en plus bref, au nord Kivu, les rebelles du M23 renforcent leur position à Kibumba, localité située à 27 km au nord de la ville de Goma, dans les territoires de Nyiragongo. Des sources proches de la société civile, confirmées par les sources coutumières, affirment que c'est depuis hier que ces rebelles du M23 renforcent leur position en armes et en troupes venues du Rwanda et du territoire de Rutshuru. Hier, ils ont creusé des fusiliers où ils ont placé des armes lourdes dans la cité et près de la zone communément appelée Trois Antennes où sont cantonnées les troupes kenyanes de l'EAC. Les habitants de la zone redoutent des nouveaux affrontements. C'est dans ce contexte que des coups de feu ont été entendus cette nuit au sud du territoire de Nyiragongo. À Bandunduville, 17 nouveaux assaillants arrêtés à Wamba, dans les territoires de Bagata, ont été présentés hier au gouverneur du Kwilu par le commissaire provincial de la police nationale. Le général Kamana Kanold a parlé des hommes armés qui tuaient récemment les déplacés reçus à Bagata. Il est au micro d'Irène Boma.
Nous venons tout à l'heure de présenter auprès de son Excellence Monsieur le Gouverneur du Kwilu 17 assaillants qu'on a arrêtés dans le secteur de la Wamba, dans le territoire de Bagata. C'est parmi les assaillants qui commettent des désolations dans la partie Maindombe Est. Donc vous prenez Kinsele, Fadiaka et consorts, ils viennent de là. Il y a des déplacés qui sont dans le territoire de Bagata, qui rentrent progressivement dans le territoire de Kwamutu, mais ils trouvent résistance et ces assaillants-là les chassent ou les tuent. Et nous descendons sur place pour les arrêter. Et nous continuons à arrêter tout assaillant qui dérange la population, la paisible population, les déplacés qui rentrent chez eux. Ces arrestations ont des liens avec les récentes attaques. Souvenez-vous qu'en date du 13 mars, il y a eu une attaque à Kinsele. Après Kinsele, il y a eu une attaque chez nous à Kissia, où il y a eu même un chef coutumier qui a été tué. Donc ce sont ces mêmes assaillants que nous avons arrêtés. Parmi eux, nous les avons arrêtés.
Prévu pour 24 mois, les travaux de construction du nouveau bâtiment du ministère de la Défense nationale ne sont toujours pas achevés ici à Kinshasa. Pour savoir pourquoi ce retard, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a été sur terrain ce mardi au camp Kokolo. Les travaux ont dû connaître deux situations qui ont impacté négativement le planning fixé. Un reportage de Jacques-Yves Molima.
Première situation, délocalisation du chantier, explique l'architecte chef de mission Frédéric Mbumbu au vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba.
Le chantier a commencé en août 2020. C'était prévu que ça soit érigé au niveau du camp Tchatchi. Quand on a délocalisé le chantier, ça a prolongé le planning de travaux.
Et ce n'est pas tout. Dans ces nouveaux sites où les chantiers ont été délocalisés, le sol n'avait pas la même caractéristique que par rapport au premier site. Une seconde situation qui a nécessité des nouveaux techniques pour solidifier la fondation. C'est ce qu'a ajouté le directeur technique de l'entreprise Arab Contractor qui a en charge la construction de l'ouvrage. Ingénieur Ahmed.
Il y avait quelques difficultés. La nature du terrain, c'est un peu différent. Ça a pris un peu de temps pour améliorer la portance de la sol. Donc, on a amélioré le sol. Après, on a changé la fondation.
Financé à hauteur de 5 361 000 euros par le Fonds européen de développement FED, en collaboration avec le ministère congolais des Finances, cela rentre dans le cadre du programme européen d'appui à la réforme du secteur de la sécurité dans son volet défense, dénommé PROGRESS. Notons que les travaux pourraient prendre fin en août prochain, a rassuré le chef de mission, l'architecte Frédéric Mbombo.
Dans un autre chapitre, les étudiants de l'Institut supérieur d'études sociales ISES Kananga au Kasaï central exigent la baisse de frais académiques fixée par le comité de gestion de l'établissement. Ces étudiants de l'ISES Kananga affirment que ces frais sont passés de 565 000 francs congolais l'année dernière à 1 million de francs congolais cette année. Lors d'une marche de protestation, ces étudiants ont demandé l'implication des autorités locales. Le compte-rendu de François Kadima.
Ces étudiants de l'Institut supérieur d'études sociales ISES sont descendus dans la rue pour dénoncer la revue à la hausse de frais académiques au sein de l'institution. Accusant le comité de gestion de mauvaise foi, il souligne qu'il a inventé des rubriques pour amener le frais académique à 1 million de francs congolais, alors que l'année académique passée, ils ont payé 565 000 francs congolais. Dans le document portant leurs revendications, ils indiquent entre autres que le comité de gestion impose le frais pour la pratique professionnelle pendant qu'il ne concerne pas toutes les filières. Il parle également de frais d'inscription imposés à tous, le frais pour la cuisine diététique, pour la nutrition. Ils évoquent également le frais des laboratoires qui, selon eux, sont réservés à ceux qui font la médecine. Face à ces rubriques qui ont gonflé les frais académiques, ces étudiants invitent le comité de gestion à la raison et au bon sens. En réaction, le directeur général de l'ISES Kananga rejette ces allégations. Le professeur bien-aimé Kabemba souligne que les frais académiques ont été fixés suivant la circulaire du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. De Kananga, François Kadima, Radio Cap.
Et puis le syndicat des enseignants du Nord Kivu alerte les autorités sur la disparité du taux de retenue des frais des comptes bancaires sur leur salaire. Le président provincial de cette force syndicale parle d'un taux parallèle de retenue bancaire alors que ces enseignants du Nord Kivu touchent le même salaire. Innocent Bahala Chamavu parlait d'une magouille à extirper à tout prix. Il le dit à Denise Lukeso.
Certes, nous sommes tous d'accord avec la bancarisation des salaires des enseignants. Mais nous sommes étonnés de voir que les banques sont en train de ponctionner l'argent sur les salaires des enseignants à leur propre gré. Donc, chaque banque ponctionne comme elle veut. À l'Access, on peut couper un enseignant un montant jusqu'au-delà de 20 000 francs par mois. Et là, ça ne fait rien. À la TMB, même chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les banques payeuses qui ont réussi le marché de payer les enseignants, qui sont devenus des gens qui ponctionnent l'argent sur les salaires des enseignants. C'est pour cette raison que nous sommes en train de donner cette sonnette d'alarme parce que trop c'est trop. Et nous demandons au gouvernement congolais de nous fixer quel est le vrai taux de retenue du frais de compte sur les salaires d'un enseignant. C'est inconcevable que dans une même ville, le taux de retenue soit différent pour le même salaire, pour les mêmes enseignants.
Revenons ici à Kinshasa où une vingtaine de personnes sont prises en charge logopédique gratuite par l'ONG Smile RDC du 3 au 7 avril. Ces personnes ont une difficulté de langage. Cette discipline paramédicale a pour but d'aider les patients à corriger cette déficience. Explication de Blaise Chindan Kambala.
Au total, une vingtaine de personnes sont prises en charge dans le cadre du programme organisé par Opération Smile RDC. Il s'agit d'une structure qui offre des soins de santé aux personnes atteintes de malformations labio-palatines, communément appelées bec de lièvre. Pour les bénéficiaires, c'est une joie immense.
L'enfant, il avait beaucoup de difficultés pour parler. Maintenant, c'est ça va, il commence à bien parler. Il peut aussi appeler quelque chose, vous écouter. Qu'est-ce que l'enfant, il a en tête de me dire? Je suis vraiment très content, j'ai béni mon Dieu.
Pour ce qui est de l'importance de ces soins, le logopède Corneille Ekolele affirme qu'ils sont indispensables.
Quand quelqu'un est atteint de malformation palatine, il nasalise. Une fois, on a opéré, on a rétabli la fente palatine, on est obligé de lui apprendre à bien parler. Si on ne lui apprend pas à parler, il parlera toujours dans le nez.
Docteur Frank Nzumba, coordonnateur de programme d'opération Smile RDC, souligne quant à lui que ces traitements constituent l'une des étapes de la prise en charge intégrée. Notez que toute personne atteinte de la même pathologie peut contacter cette structure pour une prise en charge gratuite au 082 73 57 179 ou au 089 94 28 187.
Actualité internationale.
10 des 19 militaires centrafricains libérés par la rébellion du CPC sont arrivés à Bangui cet après-midi. Les autres sont attendus demain. La Croix-Rouge qui les a récupérés a organisé leur rapatriement après une nuit passée à Birao au nord-est du pays. À leur arrivée à l'aéroport, le ministre de la Défense nationale Claude Rameau a affirmé qu'un suivi sanitaire serait assuré avant que les militaires regagnent leurs familles respectives. Ils sont restés près de deux mois entre les mains des rebelles. Le 20e prisonnier qui se trouve actuellement au Tchad pour des soins médicaux sera libéré par la suite. Et puis le président français a débuté ce mercredi sa visite officielle en Chine. Emmanuel Macron doit passer trois jours à Pékin pour relancer les relations franco-chinoises. Des relations refroidies par la guerre en Ukraine, son homologue chinois étant un soutien de la Russie. À son arrivée, il s'est rendu à l'ambassade de France où il a présenté sa stratégie avec Xi Jinping.
L'invité.
Notre invité, c'est le tout nouveau directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Patrice Vahar revient de Genève en Suisse où il a participé à l'évaluation des droits de l'homme en RDC. Il affirme que ce domaine reste un vaste chantier dans ce pays qui nécessite l'implication de tous. Il s'entretient avec Honoré Missenga-Kalala.
Directeur Patrice Vahar, bonjour.
Bonjour.
Il s'est tenu le 30 mars dernier à Genève une rencontre sur l'évaluation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, ou plus exactement le dialogue interactif sur la RDC. Alors, quels ont été les grands messages qu'on peut retenir de ce dialogue interactif?
Plusieurs messages. Le premier, je crois que c'est un avis partagé, c'est que la RDC en tant qu'État est très ouverte à échanger, à exposer sur la situation, les défis en matière de droits humains, mais aussi les efforts et les progrès qui ont été réalisés par la RDC et tout ce qui reste à faire avec le mécanisme onusien des droits de l'homme. Ça, c'est un très bon signal, c'est assez positif parce qu'à partir de ce moment-là, tout devient possible, c'est-à-dire qu'on peut passer en revue tous les défis, vraiment sans faux fuyant, mais également examiner ce qu'on peut faire pour solutionner ces défis-là. C'était ça un peu l'esprit. Bien entendu, à la fois le haut-commissaire Volker Türk des droits de l'homme, le représentant de la RDC, en l'occurrence Paul Ampole, qui représentait le ministre des droits humains, Madame Keïta, la représentante spéciale, tout le monde est intervenu sur, premièrement, les avancées qui ont été réalisées. On a beaucoup salué tous les développements qu'on a eus ces derniers temps, notamment la loi sur la protection des minorités pygmées, la loi sur la protection des droits des personnes vivant avec handicap et les autres lois qui sont en cours. Évidemment, toute la situation des violations des droits humains qui ont cours ici et qui font l'objet des rapports périodiques que nous présentons tous les mois, y compris aussi avec la collaboration de la Radio Okapi. Aucun sujet n'a été passé sous silence, je dois le dire. La situation en l'Est, bien entendu, fait l'objet d'une attention particulière, mais aussi tout ce qui peut être fait pour avoir des élections inclusives, apaisées, où les cœurs et les langues sont désarmés.
Monsieur le directeur, si on devait faire un bilan de 2017 au premier trimestre 2023, dans quelle direction va la courbe des droits de l'homme en RDC, sincèrement parlant?
Vous posez la question la plus difficile à un acteur des droits humains. Et sincèrement parlant, j'étais avec les membres du Conseil de sécurité lorsque nous avons visité le cas de personnes déplacées dans la région de Goma. J'ai été frappé par ce que j'ai vu. Donc aussi longtemps que ces mamans ou bien ces enfants sont obligés de s'interroger sur leur place dans la société, je ne pourrai jamais me satisfaire de ce que la situation des droits humains a évolué. Mais en même temps, il est vrai et objectif de dire que beaucoup d'efforts ont été faits par les autorités congolaises pour faire avancer les droits humains. Mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Ces conflits, cette guerre, pour moi, ce n'est pas le destin des Congolaises et des Congolais. Et donc, chacun d'entre nous doit se sentir interpellé On ne doit pas dormir lorsqu'on voit que les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on observe les 75 ans aujourd'hui, restent illusoires pour la majorité de nos parents, de nos enfants. Donc c'est cela. Vous me demandez dans quelle balance ça se pose. J'ai pas de bonnes nouvelles à présenter, malheureusement. Je ne dis pas que c'est pire, je ne dis pas que c'est meilleur, mais je dis qu'on a du travail encore à faire. Et ce travail-là, c'est pas simplement à l'endroit des autorités, c'est chacun d'entre nous. Vous, journalistes, votre rôle, c'est de nous aider à véhiculer les messages qui rassemblent, ceux qui émancipent, ceux qui permettent de voir en l'autre, non pas la différence, mais ceux qui permettent de voir en l'autre l'image de soi-même. Je crois que c'est important parce que souvent, ce sont les peurs et les anxiétés qui amènent les gens à repousser les autres. Donc, il y a un chantier immense. Si vous me demandez, je dirais, chaque jour, nous devons faire encore et un peu plus pour faire avancer l'agenda des droits humains à RDC.
Le prochain rendez-vous sur la RDC?
Ce sera au mois de septembre. Nous nous retrouverons de nouveau à Genève. Nous allons faire le bilan. Donc, ça veut dire que nous avons juste quelques mois pour au moins avancer sur ce que je venais de dire tantôt, c'est-à-dire une vaste campagne de sensibilisation sur la dimension humaine de tout ce que nous faisons pour que, lorsque viendra le moment des élections, que nous ayons plus d'avancées sur la question de justice et de lutte contre l'impunité.
Directeur Patrice Sebar, merci.
C'est moi qui vous remercie et merci à vos auditeurs.
C'était l'invité de Radio Okapi, le tout nouveau directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Patrice Vahar était interviewé à la fin de sa mission à Genève en Suisse. Il a été interrogé à Kinshasa par Honoré Missenga Kalala. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté.